Le journal vous est présenté par Estelle Schmitt. Bonsoir Estelle.
Bonsoir. Des drapeaux en berne dans de nombreuses communes du Var. Choc et colère après la mort du maire de Signes renversé par une camionnette qui jetait des gravats sur le bord d'une route. 6 mois de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité. Un député de la majorité condamné pour abus de confiance, mais Mustapha Al-Habib va faire appel. Elle avait exploré l'histoire des Noirs américains depuis leur mise en esclavage jusqu'à leur émancipation dans la société américaine actuelle. L'écrivaine américaine Toni Morrison, prix Nobel de littérature, est morte à 88 ans. Et puis 20 départements sont en vigilance orange aux orages. On fera le point avec Sébastien Léas de Météo France.
France Inter.
Un homme est toujours en garde à vue ce soir au lendemain de la mort du maire de Signes dans le Var. Jean-Mathieu Michel a été percuté par un fourgon sur un chemin de campagne. L'élu de 76 ans était intervenu pour tenter d'empêcher les deux occupants de jeter des gravats sur le bord de la route. Le véhicule a fait une manœuvre et renversé le maire. Le conducteur est toujours ce soir entendu par les enquêteurs et l'émotion à Signes toujours vive. Reportage Sophie Glotin.
Les drapeaux de la mairie sont bien évidemment en berne. Le personnel municipal nous accueille les yeux rougis et le premier adjoint nous reçoit dans le bureau même de Jean-Mathieu Michel.
Je tenais absolument à recevoir dans son bureau tel qu'il l'a laissé en partant. Et il est mort en faisant son travail de maire pour défendre l'environnement.
Des circonstances qui choquent les habitants de Signes.
Oui, on est vraiment sous le choc parce que c'est d'une violence. C'est vraiment monstrueux.
Il ne méritait pas de finir comme ça.
Jean-Mathieu Michel, maire depuis 1983, un personnage à la Pagnole qui aimait son village par-dessus tout, comme nous le rappelle Alain Reignard, le premier adjoint.
On perd quelqu'un qui connaissait pratiquement chaque pierre de sa commune, qui fait quand même 16 000 hectares. C'est quelqu'un d'exceptionnel. En 30 ans de mandat, il n'a jamais pris un jour de congé. C'est vous dire combien il était attaché à sa commune.
Attaché aussi aux 2800 habitants du village, René est signois depuis 20 ans. Il se recueille seul sur les lieux du drame.
Il avait cette parole dont je me souviens. Si le pape vient pendant que je suis en train de discuter avec un signois, il attendra. Il attendra que j'ai fini.
Un premier hommage sera rendu à Jean-Mathieu Michel ce jeudi après-midi à 16h devant la mairie de Signes.
Et les enquêteurs privilégient la piste accidentelle. Emmanuel Macron, ce soir, salue le dévouement inlassable de cet élu qui servait sa commune et ses habitants depuis plus de 40 ans et dont le dernier geste même traduisait le souci de son territoire et son implication à y faire respecter la loi. Franck Chesneau, chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Le pilote de la sécurité civile de 49 ans est mort vendredi dernier dans son avion alors qu'il luttait contre l'incendie de Générac dans le Gard. Une cérémonie d'hommage a eu lieu ce matin à Nîmes. Les pompiers qui luttent en ce moment contre 2 incendies en Ardèche sur la commune de La Blachère. Mustapha Al-Habib a déjà annoncé qu'il ne quitterait pas son fauteuil de député et qu'il allait faire appel. Malgré sa condamnation cet après-midi à Rennes à 6 mois de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité, 10 000 euros d'amende, le député La République En Marche d'Ille-et-Vilaine était poursuivi pour abus de confiance au préjudice d'une association qu'il a présidée. Précision Loïc Guélec.
Durant l'audience en juin dernier, le tribunal passe au peigne fin toutes les dépenses reprochées à Mustapha Al-Habib alors qu'il présidait l'association Collectif Intermed chargée d'insertion professionnelle et au financement uniquement public. Des nuits d'hôtel, des courses dans des supermarchés, des repas dans les restaurants ou encore des achats de vêtements. Le député a l'habitude de régler ses factures avec la carte bleue de l'association. La justice évoque un préjudice de plus de 21 000 euros. Mustapha Al-Habib défend sa bonne foi mais reconnaît une gestion maladroite et approximative de l'association. En le condamnant, le tribunal suit en grande partie les réquisitions du parquet et souligne des intentions frauduleuses, ce que conteste son avocat, maître William Pinault.
C'est une décision extrêmement décevante, naturellement. Le député Al-Habib a protesté en permanence de sa bonne foi quant à l'utilisation des fonds de cette association, quant à son activité avant d'être député pour l'essentiel des faits qu'on lui reproche. Ce que je peux vous dire encore, c'est qu'il sera fait appel de cette décision qui ne correspond en aucun cas à ce que nous représentons de ce dossier.
L'appel suspend la décision de justice.
Loïc Guélec de France Bleu Armorique.
Le journal de 18h sur France Inter.
Un accord commercial avec la Chine, mais seulement si c'est un bon accord. C'est ce que souhaite Donald Trump, selon son principal conseiller économique, le président américain qui prévoit toujours de recevoir une délégation chinoise pour de nouvelles négociations en septembre. Donald Trump qui calme le jeu avec Pékin, après avoir annoncé la semaine dernière son intention de taxer à 10% dès septembre les quelques 268 milliards d'euros de produits chinois importés aux États-Unis qui ne sont pas encore taxés. La Chine, de son côté, a laissé hier le yuan chuter à son plus bas niveau depuis 11 ans face au dollar et déstabiliser les marchés. Énième épisode d'un conflit entre les deux premières économies du monde qui dure depuis plus d'un an et tire de sommation de la Chine entendue, estime Anton Brender, chef économiste chez Candrian.
C'est un signal qui est donné. Attention, nous avons des armes. Vous utilisez les droits de douane, on pourrait utiliser la monnaie. Les Chinois n'ont vraiment pas intérêt, en fait, à laisser le yuan dévaluer parce que ça pourrait déclencher des sorties de capitaux de Chine. Ils n'ont aucune envie de le faire. C'est beaucoup plus un élément tactique dans un conflit où tous les instruments sont utilisés, les droits de douane. On a eu l'affaire Huawei et tout ce qui tourne autour des technologies. Et si maintenant, en plus, on allait vers une déstabilisation sur les marchés d'échange, eh bien, ça ne ferait qu'aggraver. C'est ce sentiment d'incertitude qui pèse actuellement sur les bourses mondiales. Et ça, ça explique immédiatement la réaction quasi réflexe des marchés. Plus vous augmentez l'incertitude, plus vous rendez plus opaque l'avenir dans lequel se trouvent les opérateurs, et plus les bourses ont tendance à baisser. C'est quelque chose qu'on observe systématiquement.
Anton Brender, interrogé par Fabien Cazot. Des manifestations dans plusieurs villes du Pakistan aujourd'hui et le pouvoir qui réfléchit à une réponse politique après la décision hier de l'Inde de révoquer l'autonomie constitutionnelle du Cachemire indien. Le Pakistan le sait, revendique cette province et tout à l'heure devant le Parlement, le Premier ministre a eu des mots durs envers l'Inde, Sonia Ghezali.
Imran Khan, face aux sénateurs et membres du Parlement réunis en session extraordinaire, a exprimé ses vives inquiétudes quant à la situation des habitants du Cachemire indien. « J'ai peur qu'il y ait un nettoyage ethnique au Cachemire pour anéantir la population locale », a-t-il dit. Les membres de l'opposition critiquaient le Premier ministre et son parti, le PTI, les accusant de ne pas avoir de mots assez forts contre l'Inde. Imran Khan a franchi un pas aujourd'hui. Lui qui prônait le dialogue à tout prix avec New Delhi opte pour un ton plus agressif au cœur de l'hémicycle. Il accuse le BJP, le parti de Narendra Modi, son homologue indien, d'avoir une idéologie fanatique et raciste. Deux puissances nucléaires voisines ne peuvent prendre de tels risques. Nous devons résoudre nos problèmes par le dialogue, a-t-il cependant insisté. La classe politique pakistanaise est unanime quant à la condamnation de l'Inde. Elle appelle à ce que l'ONU s'implique dans ce contentieux ainsi que la communauté internationale, attendant notamment que les États-Unis jouent le rôle de médiateur. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI pour France Inter.
Elle a écrit 11 romans sur une période couvrant 6 décennies, des essais, des livres pour enfants, 2 pièces de théâtre et même un livret d'opéra. Toni Morrison est morte à 88 ans. Cette brillante universitaire avait obtenu le Pulitzer en 88 pour son roman Beloved, l'histoire d'une mère qui tue sa fille pour qu'elle l'échappe à l'esclavage. Toni Morrison, prix Nobel de littérature en 1993. Le journaliste François Bunel l'avait rencontrée pour la dernière fois à New York en 2018 à l'occasion de la sortie de son dernier livre, L'origine des autres. François Bunel.
C'est une perte immense. C'est la première femme noire à avoir écrit aussi puissamment sur les Noirs aux États-Unis, sur le racisme qu'elle distinguait de l'esclavagisme, sur la façon dont la mémoire de la communauté noire avait été défigurée, sur les déchirements de cette communauté, et puis le faire avec un politiquement incorrect qui lui a valu beaucoup d'adversaires. Et il ne faut pas oublier qu'elle a envoyé valser les convenances en récusant toute forme de victimisation des Noirs, qu'elle s'est opposée jusqu'à son dernier souffle à la tentation communautaire. Elle a beaucoup écrit sur la très difficile libération des femmes noires. Love, Beloved sont des livres qui, à mon avis, resteront pendant très très longtemps parce que ce sont des portraits intimistes de femmes où la violence et la haine sont racontées avec le style de la rue. Des livres denses, guidés par l'urgence, avec une tension absolue.
François Bunel au téléphone de Jacqueline Petros et Barack Obama, l'ancien président américain, a rendu hommage à Toni Morrison, la qualifiant de trésor national. Laurent Koscielny jouera en Ligue 1 de foot la saison prochaine. Le défenseur d'Arsenal de 33 ans s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux. On ne connaît pas encore le montant du transfert. Koscielny compte 51 sélections en équipe de France. On passe à la météo avec vous, Sébastien Léas, on l'a dit, vigilance orange aux orages.
Oui, bonsoir. 20 départements situés entre le nord de l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'en Alsace sont placés en vigilance orange pour des risques d'orages forts, de grêles et de puissantes rafales de vent. Sur le centre-est et le nord-est, les orages se produiront entre maintenant et ce soir. On a déjà de bonnes cellules orageuses actuellement qui abordent Lyon et Saint-Étienne. Les départements du sud-ouest seront eux touchés la nuit prochaine par l'arrivée d'une dégradation orageuse qui arrivera d'abord sur l'Aquitaine avant de glisser progressivement vers le massif central. Et puis nous avons aussi une perturbation qui s'étend des Pays de la Loire à l'Île-de-France France jusqu'au nord et aux Ardennes. Cette perturbation a déjà donné un bon passage pluvieux qui est maintenant au nord de la Seine. Et une deuxième vague pluvieuse et même orageuse va se mettre en place par l'Atlantique pour glisser vers les frontières belges durant la nuit.
Averses et orages sur l'Est demain.
Oui, la perturbation du nord-ouest et la dégradation du sud-ouest iront se rejoindre vers l'Est demain matin pour apporter donc des averses et des orages sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Lozère et l'Aveyron. Plus à l'ouest, la matinée sera plutôt nuageuse mais assez calme, même si quelques gouttes ne sont pas exclues. Au fil des heures, les éclaircies vont s'élargir et gagneront même du terrain puisque les averses et les orages vont progressivement s'évacuer vers les frontières de l'Est l'après-midi. Le pourtour méditerranéen restera lui à l'écart de ce temps agité, bénéficiera de belles éclaircies et du soleil tout au long de la journée de demain. Et puis les températures seront entre 21 et 29 degrés en général, avec jusqu'à 34 degrés autour de la Méditerranée.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.